16h01, c'est Gravel dans le retour à Boulevard 102.1. Le maire Bruno Marchand est en studio avec nous, monsieur le maire.
Salut.
Bonjour. Peut-être d'abord revenir sur les tristes événements qui sont survenus du côté de Montréal aujourd'hui. Un policier abattu, une policière grièvement blessée, un civil qui est décédé pendant l'échange de coups de feu. Le suspect a lui aussi été abattu. C'est une opération policière qui est à toute fin pratique terminée. C'est quoi votre première réaction par rapport à tout ça?
Bien, choqué, bouleversé. Toute fusillade n'a pas de sens. Celle-là, non plus. Il y a quelque chose qui est... Ça touche le sentiment de sécurité. Ça touche le sentiment de sécurité des gens. Donc, tu as les victimes auxquelles il faut penser, tu as leur famille, puis tu as les autres que nous sommes, qui sommes, OK, comment on fait pour se protéger contre ça? Alors, on va attendre, j'en dirai pas plus, parce qu'il reste il y a encore trop d'informations présentement qui s'ajoutent pour bien comprendre la situation. Ça reste hyper choquant. Ça reste hyper, j'ai envie de dire, triste et dommage et bouleversant.
Avez-vous échangé avec le service de police de la Ville de Québec? Avez-vous échangé avec la mairesse de Montréal dans
non,
les
pas
dernières
la mairesse,
heures?
Non, pas déjà. Non, je vais envoyer un texto tantôt pour dire, évidemment, si on peut faire de quoi, mais on était assez limité, mais certainement témoigner de notre soutien. Puis avec le service de police, bien, j'ai eu des échos avec la direction générale adjointe qui est en lien avec notre service de police. Là. En général, ces informations-là rentrent vite, justement pour être informés de s'il y a quelque chose que nous, on peut faire de différent. Pour l'instant, on suit la situation.
Évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont fait jaser dans l'actualité montréalaise et dans l'actualité des policiers du service de police de la Ville de Montréal dans les dernières semaines. Puis on n'est pas rendu à présumer puis à envoyer des théories, mais de façon générale, avez-vous l'impression qu'il y a de plus en plus d'individus qui se radicalisent à gauche ou à droite?
Oui.
Puis que c'est devenu un stress, même dans une ville comme Québec?
Oui, là. Sans parler de cette histoire-là, parce que comme tu dis, on
va voir
ce que l'enquête va amener. Mais il y a plus de gens qui se radicalisent, pas pour commettre ce type de geste odieux, mais ce qu'on voit, c'est des gens qui se radicalisent souvent par les paroles, par les messages. Vous avez vu le débat, tu sais, des gens qui insultent des agents de police, mais on le voit pas juste auprès des policiers, là, mm-hmm. Des gens qui insultent nos employés municipaux. Là. Le gars, il fait son travail, bien, la personne est en maudit parce qu'il a mis son camion pour déboucher une grille, mettons. Il est tombé de la... Et là, le monde klaxonne. Il y a du monde qui le traite comme si c'était moins que rien. Il y a du monde là, qui sont chargés... Je parle pas... c'est pas une métaphore. Là, qui sont chargés intérieurement là, puis qui déversent ça sur la moindre entrave qui leur arrive. Ça peut être un policier, ça peut être un employé municipal. Non.
Y a-t-il un lien à faire pour vous entre la personne qui insulte un employé municipal ou un policier, puis la personne qui s'en va tirer des policiers comme des canards à Montréal? Je veux dire, c'est-tu tout le monde qui régresse d'une coupe de bardeaux parce que...
Il est trop tôt. Il est trop tôt dans ce moment-là pour le commenter. Mais on sent qu'il y a une petite portion, c'est pas une majorité de gens, qui se gêne plus pour dire sa façon de penser, et c'est pas toujours poli, adéquat, respectueux, et ça, c'est inacceptable.
Puis ça semble être dans différents groupes. Puis là, on n'aura pas le choix là, de revenir sur le service de police de la Ville de Montréal, mais des événements qui remontent à une dizaine de jours, alors que qui n'ont aucun lien avec aujourd'hui, là, jusqu'à preuve du contraire, quand on a dû suspendre des agents et en déplacer du quartier de Montréal-Nord. Est-ce que des situations comme celle-là à Québec, dans ce temps-là, ça lève un petit drapeau rouge en disant, est-ce qu'il faut être plus vigilant sur ce qui se passe chez nous pour éviter ça?
Ma réponse est, j'espère qu'on l'était déjà. Moi, je suis pas là. C'est pas des échos que j'entends. Mais si il y a des policiers qui voient des choses, il faut qu'ils soient capables de dénoncer, même si c'est leurs collègues. Ce qui est inacceptable reste inacceptable. Que ce soit du racisme, du sexisme, de l'homophobie, on s'attend que notre police soit là-dessus impeccable. Après ça, moi, j'ai toujours été de ceux pour soutenir nos policiers. C'est pas facile d'être policier. Mais c'est pas une raison pour commettre des gestes racistes, c'est pas une raison pour commettre des gestes homophobes, sexistes. C'est non. Point. OK? Il n'y a pas de raison. Mais après ça, quand ils font des interventions, une sur deux ou à peu près est en santé mentale, c'est pas simple. Alors, ça suppose du support, de l'accompagnement, d'être là, d'être présent, puis en même temps d'avoir un corps policier qui s'ouvre à de nouvelles pratiques, qui est agile, qui travaille des nouvelles façons de faire. Je pense que c'est ce que nous avons à Québec. Sommes-nous parfaits? Sûrement pas. Si on entend des choses, on va être à l'affût. Mais on a un nouveau chef de police, l'ancien était du même, Maccabi. On veut toujours s'améliorer.
Êtes-vous satisfait dans l'état actuel où il y a beaucoup de choses qui ont changé à Québec? Il y a un certain climat d'insécurité. On l'a vu, entre autres, des gens qui ont été abattus dans le secteur de Limoilou, des affaires de tir d'erreur sur la personne, des jeunes qui se criminalisent, qui se radicalisent, de plus en plus d'itinérance dans Saint-Roch et même dans d'autres secteurs de la ville de Québec, des enjeux de santé mentale. La réalité du policier de Québec, dans les 10 dernières années, elle a quand même changé.
Elle a changé énormément. Comme tout policier dans des grandes villes en Amérique du Nord, en Europe. Mais c'est pour ça que je dis que... Est-ce qu'un jour, on apprendra qu'il y a eu une intervention qui n'a pas été la bonne? Probablement, là. On a des centaines de policiers. C'est des humains comme tout le monde. Alors, on interviendra. Puis ce qui est inacceptable reste inacceptable, je le redis. Mais il y a aussi un travail qui est très difficile à faire. C'est avec l'humain. C'est complexe. Alors, en dehors de ce qui est inacceptable, moi, je soutiens nos policiers.
Monsieur Marchand, on va passer à ce qu'on va appeler les affaires courantes. Mm-hmm. En fin de semaine, on a abattu la passerelle Adrien Pouliot. Ça, oui, s'est-tu bien déroulé?
Très bien.
Oui?
Bien, je veux dire, il fut un temps où des choses comme ça, on aurait fait ça, on aurait bloqué la circulation la semaine. Ça s'est fait en fin de semaine. C'est sûr qu'il y a eu des entraves. Je viens de passer là pour m'en venir ici. Un, c'est plus beau. Mais deux, il n'y a rien qui est pareil. Ils vont finir le travail, là. Fait que moi, je considère que ça a été... On verra la suite, mais c'est une bonne opération.
Là, on est-tu en attente d'argent du provincial pour essayer de regarnir un peu ce secteur-là autour du stade?
Non, mais ce secteur-là, ce qu'il va vivre, c'est qu'il va vivre une transition, parce que c'est là que les gens vont pouvoir... Une partie de nos autobus vont terminer leur parcours-là.
Oui.
Donc, ça va devenir un pôle d'échange à terme, quand le tramway va être là. Mais entre-temps, ça va devenir un pôle d'échange en développement, parce qu'on va utiliser ça pour que les gens puissent en faire un pôle de mobilité. Fait qu'il ne sera pas amélioré parfaitement d'ici quelques années, le temps d'arriver avec le tramway.
Parce que là, tu sais, il y avait à un certain moment donné un projet de boulevard urbain. C'est un projet qu'on ne peut pas faire vraiment sans le provincial, de ce qu'on comprend.
Exactement. Alors, à partir du stade, là, à peu près, où sont les lumières.
Ou la rue de la Croix-Rouge, dans le fond, c'est ça?
Ça commence exactement là où est, en face du stade, du stade Canac. Moi, l'idéal, ça serait presque juste à l'autoroute, là, au terrain d'Hydro-Québec, juste avant l'autoroute. Mm-hmm. Ça serait génial, là. D'avoir un boulevard urbain, on récupère des terrains, c'est beau pour le stade, ça permet d'avoir une amélioration de qualité de vie dans ce coin-là extraordinaire.
Mais là, c'est pas d'un carton.
Mais nous, on continue de le mettre dans nos priorités. Le gouvernement du Québec, M. Julien avait déjà dit oui, ça nous intéresse, mais il n'y a rien qui. C'est pas une flèche que je lui lance. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça devienne une priorité si on veut que ça avance. Avec l'aménagement de tout ce qu'on va faire dans ce secteur-là, notamment Exposité, le Colisée, il y a beaucoup de potentiel, là. C'est bien intéressant.
On va parler des textos-travaux, si vous le voulez bien. Oui, là, moi, je viens de m'inscrire. Là, comment ça marche? Là, c'est quoi que je vais recevoir? Là?
Alors, site de la ville, sous l'espace citoyen, les gens peuvent aller s'inscrire. Mm-hmm. Donc, quand ils arrivent pour s'inscrire, évidemment, ils donnent leur nom. Mais ils donnent surtout 1 à 6 adresses, qui peut être, par exemple, ton lieu de travail, le commerce où tu vas souvent, la garderie de tes enfants, l'aréna,
Le trajet quotidien, le trajet plus régulièrement emprunté.
Exact. Puis lui, à partir du moment où tu as donné... tes coordonnées, bien lui, il t'envoie des communications. Tu te dis, oh, attention, je sais que tu vas à cet endroit-là, bien, il y a une entrave qui n'était pas là hier ou qui va être là une semaine ou qui va être là pour un mois. Voici quelles sont les entraves sur ta route.
Attends. Est-ce que tout ça se fait uniquement sur une base volontaire?
Oui.
Oui?
OK. On n'a pas le droit de... On n'aurait pas le droit de prendre des données, mettons, fiscales. Puis dirait, on va vous inscrire dans un autre projet, on serait critiqué sur le respect de la vie privée.
Je sais pas, moi, la technologie me fascine, puis je me dis, tabarnouche, on se fait consulter pour un paquet de niaiseries. Moi, j'ai acheté des bobettes une fois, puis Manmade me court après depuis un an et demi.
Et puis ils ne te lâcheront pas.
Non, ils ne me lâcheront pas, mais je me dis qu'une ville pourrait faire des trucs intéressants, consulter les gens sur certains enjeux de quartier, envoyer de l'information, comme aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de partir votre foyer.
Ou le déneigement.
C'est là qu'on veut aller.
Bien, c'est là qu'on va aller, parce que là, on le fait pour le tramway, mais après ça, sur les entraves, ça va être pour toutes les entraves. Tous les gens de Québec, qu'ils soient près ou loin du tramway, vont pouvoir dire « j'habite sur la rue de la Faune, je travaille sur des gradins, puis je sais pas, moi, ma garderie est à Beauport », bien, ils vont pouvoir mettre ça. Le plan, c'est qu'on s'en va là.
OK.
Mais on sera toujours sous inscription, là. Il faut que les gens s'inscrivent.
Quelqu'un qui veut rien savoir, « ah, moi, Marchand, comment on sera pas à me texter, là, lui reçoit rien. »
Mais tu sais ce qui est drôle, puis on prend l'exemple de Madman, mais on cite pas Madman, mais... On n'a aucune misère à tout donner à Facebook, à X,
Je suis très d'accord avec
vous. Puis là, la ville, on fait comme, la ville, ils vont peut-être abuser de mes données.
Pour une fois que ça pourrait servir.
On est tellement encadrés, là. Ouais. C'est pas mal moins dangereux que de recevoir des publicités de bobettes.
D'ailleurs, on a reçu une très bonne question par texto. Pas obligé d'être résident de Québec pour s'inscrire à ça.
Non.
Parce que tu sais, il y a des gens qui vont rester à l'extérieur de la ville puis qui vont avoir à transiter dans ces secteurs-là. Non, non.
Donc, quelqu'un qui vient de Lévis, Saint-Romuald, Saint-Nicolas, qui vient travailler sur la Rive-Nord, il peut inscrire tous ses spots aussi.
Ses spots, oui.
Quelqu'un qui veut inscrire des spots pendant le festival d'été pour être sûr. Puis
exact.
Tu as
le droit à 6.
Good, parfait.
Le droit à 6. Alors, c'est sûr que si tu fais 28 spots, là, tu vas manquer d'espace.
Répétez, c'est où sur le site de la ville?
Ville de Québec, espace citoyen. C'est rendu en une, là, c'est en une pour un temps.
Puis, y a-tu un forfait de luxe familial comme Spotify à 15,99 par mois? Non, ça pas encore. Non. Qui te garantit du parking en ville?
Oui, c'est ça, exact. Qui te garantit? Non, on n'a pas ça.
Bon, évidemment, je sais que vous avez répondu à ces questions-là, mais je veux quand même que vous donniez les détails concernant la patinoire réfrigérée de Duberger. Le montant initial du projet était à 11 millions de dollars. Finalement, on est rendu à 13,4 millions. Comment ça se fait? On a décidé de rajouter des affaires.
2,4 au-dessus.
Oui.
Il y a deux
choses. C'est pas un projet qui coûte plus cher que ce qui avait été estimé.
À 600 000. Donc, sur le 2,4, il y a un 600 000, on avait budgété X, puis les appels d'offres ont sorti à 600 000 de plus que ce qu'on avait budgété. Ça, il coûte plus cher parce que notre budget a été défoncé par les appels d'offres, il n'y en avait pas de moins cher. Première des choses. L'autre partie, 1,8 million, la grande partie de la hausse, c'est des choix qu'on a fait pour bien servir les gens du Duberger-les-Saules. Parce qu'on aurait pu juste faire une patinoire réfrigérée. Comme on a fait à Bonpasteur, à Charlebourg, la deuxième, il n'y a pas de pavillon.
Ouais.
Mais là, on est avec un terrain de baseball qui est super utilisé. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de place pour se changer. Les gens du Berger manquaient de ces espaces-là. Fait qu'on a agrandi le pavillon pour que les gens puissent utiliser la patinoire.
C'est venu d'où ces observations-là? Là? C'est arrivé
ça vient
de
du service
où,
des loisirs.
Okay.
Ça vient du service des services communautaires de la ville qui disent, OK, tant qu'à faire une patinoire, on est aussi bien de mettre 1,8 million de plus que ce qu'aurait coûté une patinoire pour aller construire et répondre à d'autres besoins. C'est beaucoup plus gagnant financièrement.
Ça arrive quand dans le processus, ça?
Ça arrive. Écoute, au départ, quand on a lancé patinoire, nous autres, on a dit on veut une patinoire par arrondissement, une par année. On a fait celle avec les Canadiens, où on a appris
la
Fondation
Blanc-Bouge.
Des Canadiens pour l'enfance, Bleu Blanc-Bouge, exactement, près du stade Canac. Une très belle patinoire. Après ça, on a dit on s'en va en périphérie, dans la Charlebourg. Et là, on a dit à la ville, vous allez en faire une par année. Alors, qu'est-ce que la ville fait? Le service de l'ingénierie, les services liés à la construction de bâtiments, il fait, OK, quels vont être les sites? On trouve des sites, dans quel secteur? On regarde pour savoir les bons sites, c'est à la bonne place. Puis après, il consulte les autres services de la ville, puis il demande, avez-vous des besoins? Parce que s'il y a des besoins qu'on pourrait cumuler, plutôt que construire un centre communautaire 3 ans après qui va coûter, lui, 5-10 millions, on va le mettre tout de suite là-dedans, puis c'est ce qu'on a fait.
Est-ce qu'on est en retard dans le nettoyage des rues? Il y a des citoyens là, qui veulent vous entendre là-dessus. Là.
Ben,
il y a des secteurs qui disent habituellement à ce stade-ci, fait longtemps que c'est cleané. Puis...
Ben, on est en retard, là, parce qu'on sait le printemps qu'on a eu. Mm-hmm. Mais s'il y a des gens qui doutent, 3-1, là. Appelez le 3-1, l'information est là. Si
parce qu'elle est censée être complétée, l'opération printanière à ce moment-ci, depuis hier. Là.
Elle est très avancée. Fait que là, je ne sais pas ce qui reste, je ne sais pas de quelle rue on parle, mais on va. J'invite vraiment les citoyens à appeler le 3-1 pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que la rue est à venir ou qu'est-ce qui se passe?
Vous avez dit la semaine passée, quand on lance un projet, les gens veulent tout de suite savoir combien ça va coûter. Et souvent, on veut répondre à cette question pertinente, mais on ne devrait pas le faire tout de suite. C'est une gaffe qu'on ne devrait pas faire.
Ouais.
C'est à partir de quel moment qu'on dit au monde combien ça coûte?
Bien, quand on a un prix qui a, j'ai envie de dire, une rigueur derrière son analyse. Pour moi, là, c'est aussi simple que... Tu vois, présentement, il y a des gens d'affaires qui parlent d'amener une équipe de la Ligue canadienne de football.
Oui.
À Québec.
Oui.
Là, les gens disent, on va regarder des comparables. Comment ça commence au début? Hey, on fait, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'amener une équipe de la Ligue canadienne de football. Moi, je crois à ça, je suis ouvert à business.
Fait que là, on prend une napkin, on met des chiffres?
Non, parce qu'au départ, là, c'est toujours la même affaire. Il y a personne qui va mettre 6 mois de travail pour savoir combien coûterait l'édifice. Tu fais d'abord un budget pro forma. Tu dis, OK, comment ça coûterait? Comment tu fais pour analyser ça? Tu vas voir les stades qui ont été construits récemment avec des places relativement similaires. Puis là, tu dis, OK, à telle place, j'invente. À Hamilton, ils l'ont construit pour 350 millions. Puis à telle place, à Portland, 322. Fait que là, on évalue. On pense que ça serait 350 millions. C'est pas un prix, ça, là. C'est une estimation basée sur une ville qui est dans un autre contexte.
Mm-hmm.
Fait que je vais te donner un exemple. Si nous, on dit, on construit le même stade, mais qu'on arrive au Colisée, qu'on dit, hey, on le fait au Colisée, il faut enlever de la terre, on se rend compte qu'elle est contaminée, bien, c'est 50 millions de plus. Bien là, tu n'es plus rendu à 350, tu es rendu à 400. Quand tu communiques un chiffre avant d'avoir fait toutes les analyses, les gens, après, quand tu leur dis le stade va coûter 400, ils font « Ah, c'est une hausse de coût! » Non, ce n'est pas une hausse de coût, là. On vous a donné au début une fourchette ou un prix qui était totalement estimé. Moi, ce que j'ai dit, c'est arrêtons de donner des prix estimés, faisons le travail, cachons-le pas, là. Puis arrivons et disons, Jean, ça va coûter tant, on a fait les analyses, on le sait.
Là, le tramway, le prix qui circule, c'est-tu le bon? Ah ben, il aurait fallu attendre
non,
un peu.
Le tramway à 7,6, c'est exactement comme ça qu'on doit faire. Il est à 7,6, on est en train de le finaliser. Puis si on doit le corriger, on va vous le dire le plus rapidement possible.
Mais les gens prennent pour acquis que ce budget-là, il est déjà busté.
Oui, mais ça...
C'est peut-être l'habitude là, d'être échaudé.
Non, mais je comprends les gens d'être sceptiques. C'est les autres projets, c'est les satellites, c'est d'autres projets qui ont vu le jour, qui ont coûté plus cher. Mais à Québec, les gens sont bien servis. Là. Puis je vous l'ai dit la dernière fois, depuis 2017, tous les projets réunis ont coûté 2% moins cher que ce qu'on avait estimé au départ. C'est la bibliothèque Gabriel-Leroy, c'est le centre Vidéotron. Il y en a qui ont coûté plus cher. Mais quand on regarde toute la moyenne, on est en deçà de nos prévisions. On est bien géré à Québec. Puis là, je parle pas du maire, là, je parle de nos équipes, je parle de ceux qui gèrent des projets, les gestionnaires de projets, on est bien géré. Ça coûte moins cher de 2% qu'estimé au départ.
Monsieur le maire, vous nous ramenez quoi de la Belgique et de l'Italie?
Bien, d'abord, un congrès de l'Assemblée générale annuelle des maires francophones.
OK. Si vous aviez été absent en raison d'une pneumonie, on ne l'aurait pas eu, ce congrès-là?
Bien là, on spécule, mais si j'étais absent de ces réunions-là, on ne l'aurait pas, non.
Non?
Ben là, si j'avais une pneumonie, mettons une deuxième pneumonie en deux mois, là. Mettons que mes petits poumons, ils trouvent ça dur.
Non, c'est que vous allez dire qu'on gosse avec ça, mais à chaque fois qu'un maire s'en va en mission à l'étranger... Bien, on s'attend à un retour concret où on se dit, bien, ça valait pas la peine. Puis là, le maire, bien, il est allé en Italie parce que ça avait de l'air beau, là.
Non. Rimini, là, je fais longtemps que j'étais allé en Italie personnellement, là. Rimini, c'est bien correct, mais c'est pas le plus beau de l'Italie, là.
Vous n'avez pas fait des petits détours romantiques, ben je ne sais pas. Monique n'est pas venue vous rejoindre.
J'étais seul, j'étais avec un collègue. Mm. On est allé minimaliste. Le but, on est allé vendre Québec. Pour un congrès qui pourrait rapporter 2,5 millions à 3 millions de retombées. On parle de 1 600 à 2 000 personnes. Mais pour vendre Québec, parfois, il faut que tu sois là. Puis ça a été tellement apprécié qu'on a augmenté les chances de l'avoir. On verra si on l'a. Quand on est allé à Détroit, là,
oui.
Québec international, on va faire le bilan de ça. Là. On est rendu à des millions en retombées.
Oh mon Dieu, Québec international, il faut leur en parler de
non,
ça.
Non, on est rendu à des millions en retombées.
Tellement
les gens pensent que je choisis des missions pour me payer des vacances. Ceux qui pensent ça, vous vous trompez. Puis je vous l'ai dit à vous, là, j'avais 4 jours de pêche avec mes chums. J'aurais mieux aller à la pêche qu'aller travailler 12-14 heures par jour, à vivre le décalage. C'est pas vrai. Puis cette mission-là a coûté très peu pour ma participation parce que nos billets d'avion étaient payés par les deux organisations qui nous accueillaient, parce que j'ai eu des nuits d'hôtel payées. Fait que pour la ville, elle a pratiquement pas coûté. Puis déjà, on a ramené un congrès de l'Association des maires francophones à l'Assemblée générale annuelle. Déjà, pour nos commerçants, nos restaurateurs, c'est bon. Si un maire de Québec veut pas sortir... Il ne devrait pas être maire de Québec. S'il préfère aller à la pêche, humainement parlant, moi, j'aurais aimé aller à la pêche avec mes chums. Mais c'est mieux de ne pas être maire de Québec. Tu ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça pour ramener de la business ici. Tu fais ça pour ramener de la business pour que dans nos hôtels, dans nos restaurants, il y ait du monde. Puis c'est exactement ce que j'ai fait.
Bon, là, j'ai pris des notes là, parce que c'est compliqué en baptême Québec international puis le vérificateur général. Puis là, ça prend quelqu'un pour me démêler ou encore me mêler plus. Je le sais pas. Donc, on ne demande pas de réévaluer les subventions octroyées à Québec international depuis 2019 pour peut-être essayer de récupérer des sommes s'il y a lieu. L'organisme de développement économique de la région de Québec a obtenu des sommes auxquelles il n'avait pas droit, selon le rapport du vérificateur général de la Ville de Québec, qui recommande de réévaluer ces sommes. Selon Daniel Rancourt, une somme de 3,8 millions de dollars a été versée entre 2019 et 2024 à Québec international pour des services professionnels offert à la ville. Il y a une année, en 2019, si je ne m'abuse, où on avait fait des vérifications qu'on n'a pas faites pour les autres années. Pourquoi on va au BAT défendre ça face au vérificateur général? Ça me fait penser à quand on disait on a eu un mauvais bulletin avec le RTC, mais c'est de la faute au bulletin.
Non. 85% des recommandations du vérificateur depuis que moi je suis là, toute vérification confondue, ont été mises en œuvre. Puis on continue de mettre les autres en
ligne. Il est où le problème, là?
Alors, le vérificateur, ce qu'il dit...
Hey, j'ai lu comme Guillaume Lepage, là, je veux dire, je suis pas capable de faire autre chose avec ça, c'est trop mal. Hein?
Non, mais regarde, ce qu'il dit, la Ville a des programmes, puis il dit on va donner de l'argent à des partenaires, comme Québec international, pour réussir et faire des choses. Le vérificateur dit certains des argents donnés n'étaient pas admissibles dans les programmes de la Ville. Alors oui, on a donné de l'argent de plus à Québec international. C'était pas caché. C'était une décision qui a été prise, qui a été communiquée. Pourquoi? Pour réaliser des objectifs qu'on avait d'attraction de talent. Pour réaliser des objectifs qui faisaient en sorte de nous rapporter de la business, pour aider Québec international à réaliser sa mission. Le vérificateur dit, il dit pas que l'argent a été gaspillé. Là. Il dit pas qu'ils sont partis avec 3,8 millions de dollars et sont partis sur une ballonne. Ce qu'il dit, ils ont réalisé les missions qu'on leur a confiées, les objectifs qu'on leur a confiés. Mais ce qu'il dit, c'est que dans les programmes de la ville, ça venait pas de programmes clairement identifiés.
Là, à ce moment-là, est-ce que c'est de mieux identifier les programmes pour éviter cette confusion-là, parce que...
Mais dans certains cas, là, Québec international, il y a des décisions qu'on a prises au comité exécutif. On le savait qu'on n'était pas dans un programme. C'est une décision qu'on a prise pour soutenir Québec international, pour répondre à des besoins, notamment l'attraction de talents.
Mais si ça avait été assez clair, le vérificateur général l'aurait vu et n'aurait pas senti le besoin de dire
parce
ça.
Que lui, ce qui, non, lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'était pas dans les programmes. Nous, moi, je fais de la politique quand il y a des besoins, puis c'est pas parce que c'est des gens que je connais ou pas. On a besoin d'atteindre des objectifs, notamment pour notre monde économique. Bien, quand on a besoin de dégager des sommes pour aider, on le fait.
Monsieur Marchand, j'aimerais que vous preniez les écouteurs. Je sais que c'est un dossier qui a évolué depuis, mais il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas entendu. Carl-Emmanuel Picard, qui est un producteur de spectacle sur nos ondes, est devenu très émotif en parlant des nombreux travaux dans le secteur de l'anti et ainsi de suite, puis en lisant des commentaires d'internautes, parce qu'il avait fait une publication sur Facebook où il se sentait un petit peu abandonné dans tout ça. Je vous fais entendre l'extrait. Tout de suite.
Ceux qui commentent et demandent d'être patients sont plutôt biaisés dans leur jugement. Quand c'est toi qui dois expliquer aux BAN la complexité du secteur, quand c'est toi qui dois t'assurer d'avoir l'argent dans ton compte de l'entreprise, quand c'est toi qui as des flashs et des doutes sur la survie de ton entreprise dans laquelle tu mets ta vie, le bien de ta famille, tu ne vis pas le même stress que celui des spectateurs qui dit d'être patient. Et si tu veux le dire que ça te dérange de vivre ça, j'ai la misère à l'aller. Mais la vérité, là, c'est qu'on est plein d'entreprises dans Saint-Roch qu'à chaque jour, on n'a pas d'argent dans notre compte pour payer les dépenses. Puis il y a des gens qui prennent des décisions puis qui n'ont pas pris en compte que l'anti est là depuis 11 ans, puis qu'avant l'anti, il y avait l'acheté, puis avant l'acheté, il y avait la taverne d'Orchester, puis là, ils prennent des décisions, puis ils n'ont même pas la bonté de m'appeler.
Mais moi,
pour
c'est
me
ça.
Dire où que les groupes vont stationner, puis ils pensent que moi, je vais manœuvrer là-dedans tout seul. Sérieux, ça, j'ai vu tous les commentaires, mais ce commentaire-là me touche. C'est un projet de vie que je mène avec des gens passionnés pour des gens passionnés, puis là, ça va pas dans le bon sens, Saint-Roch. Il y a plein de commerces qui ferment, puis ça va continuer à fermer un après l'autre. C'est malheureux, mais c'est ça, la vie.
S'il y a une chose que je remets pas en doute, c'est la passion de Carl-Emmanuel. C'est un cri du cœur, ni plus ni moins. Vous réagissez comment quand vous entendez ça?
Bien, je peux pas faire autrement qu'être touché. Là.
Il s'est senti abandonné un peu?
Bien, puis il y a des entraves, si on parle juste de travaux, il y en a beaucoup, là. C'est sûr, là. Quand on ajoute des entraves, on n'est pas en train de dire ça va être le fun. Là. C'est, on le sait, ça s'appelle
mais
une entrave.
Mais comment on fait pour les aider?
C'est ça. En fait, son point, lui, puis là, depuis ce temps-là, on a échangé, il a eu des rencontres.
Exact. Il a rencontré Eleni, la conseillère du quartier. Il a rencontré le bureau pivot, il a rencontré des gens, puis il s'est dit satisfait.
Oui, mais vous comprenez que quand l'information sort publiquement, avant même qu'eux soient consultés ou reçoivent peut-être juste un petit courriel en disant « Voici commerçant du secteur qui est un secteur qui mange Sorov depuis une couple d'années. » Juste un petit heads-up en disant « Là, vous allez voir ça sortir. Faites-vous-en pas. On a des solutions pour vous. » J'ai l'impression qu'actuellement, on a l'impression que vous êtes toujours en rattrapage du côté de la Ville de Québec.
Non.
Puis il y a un certain moment donné où vous êtes venu nous voir et vous nous avez dit « Oui, il y a des commerces qui risquent de ne pas passer au travers. Il y en a d'autres qui vont prendre la place. » Ça, je pense que ça a marqué beaucoup les esprits puis ça a peut-être laissé penser que ben regardez, nous autres, on n'a pas le choix, on fait les choses, puis eux autres, ils vivront avec.
Non, non. Si c'est ça que ça a laissé penser, c'était pas ça qui était l'objectif. L'objectif, ce que je vous avais dit aussi, c'est que pas d'entrave. Malheureusement, il y a des commerces qui ferment. Là.
Absolument.
Dans le monde économique, il y a des réalités où les commerces, peu importe, la clientèle est changeante, ils n'arrivent pas à être, puis je parle pas de Carl-Emmanuel, là, ils n'arrivent pas à être à la bonne place pour attirer la bonne clientèle ou à faire de l'argent, tout simplement. Alors, moi, mon objectif, c'est de dire, si on le fait pas maintenant, OK, prenons sur la question des entraves. Si on le fait pas maintenant, je parle pas de l'itinérance, là. Si on le fait pas maintenant, ça va être pire plus tard. Fait qu'avant que ça soit pire, il faut le faire. Est-ce que ça aurait dû être fait avant dans certains cas? Oui.
Dans la communication. Les entraves, on n'a pas le choix. Ouais, on en est tous conscients. Mais encore une fois, c'est l'ordre de la communication.
Mais je suis tout à fait d'accord qu'on peut s'améliorer. C'est exactement pour ça qu'on parlait tantôt de la question des textos et de la question des communications directes. Je pense que depuis 4 ans, en matière... J'ai vu ce que la ville de Calgary et d'Edmonton faisaient. Ils partent de pas mal plus loin. C'est pas parce qu'on est plus loin qu'eux autres qu'on les doit être satisfaits.
Mm-hmm.
Alors, tous ces exemples-là, on doit les colliger pour voir exemple de ce que tu donnais, on peut communiquer encore plus proactivement? On essaye. On travaille avec l'Association des commerçants, la SDC. On travaille à informer les gens pour donner le plus d'informations possible. Y a-t-il d'autres méthodes à ajouter? Pourquoi pas?
Bien, moi, ma question, elle est un peu là parce que la question que ça amène, quand on a reçu Carl-Emmanuel puis qu'il nous a comme un peu explosé d'émotions d'en face, c'était quand même... c'était pas prévu, là. C'était pas prévu.
T'étais là, toi?
Bien, en fait, moi, je suis rentrée dans le studio juste après, puis Max était encore un peu ébranlé, veut pas. Mais question de perception aussi, la question qu'on doit se poser, M. le maire, c'est est-ce qu'il faut que ça passe par les médias pour qu'une ville réagisse?
Ouais.
Parce qu'on s'est demandé, tu sais, Carl-Emmanuel est une figure relativement publique à Québec, tu sais, étant donné qu'il est très, très impliqué au niveau culturel, mais c'est pas le cas de plein de petits commerçants qui ont pas nécessairement la même voix.
Mais avec leurs conseillers et conseillères, je vais vous donner des exemples de Catherine Vallière-Rolland dans Saint-Sacrement. Catherine Vallière-Rolland a rencontré tous les commerçants à plusieurs reprises. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours tous été satisfaits par rapport à ce qu'ils demandaient. Puis ça, je vous l'avais déjà compté ici. Entre commerçants, ils ne demandent pas toujours la même affaire. Puis ils demandent des affaires, des fois, qui sont opposées les uns aux autres. Mais on est sur le terrain. Ça se peut qu'il y en a qu'on échappe, ça se peut qu'il y en a qu'on n'a pas pu communiquer, mais Hélène Lepage, dans ce secteur-là, est une bonne conseillère. Elle est présente sur le terrain. Elle fait des médias sociaux. Fait que non, il ne faut pas que ce soit dans les médias. Il le fait dans les médias, puis c'est pas déméritoire. Puis on n'est pas une administration.
C'était pas planifié aussi.
Ouais, l'objectif n'était pas l'eau de bord non plus. Là.
Non, mais même si ça avait été l'objectif, c'est pas parce qu'il l'a fait comme ça qu'on l'a mis à l'index.
Mm-hmm.
C'est déjà arrivé des administrations au Québec qui, si tu nous critiques, on ne te parle plus, tant pis pour toi. Nous, c'est pas ça qu'on fait.
Ben, je pense que c'est une question qui est légitime à poser dans la mesure où c'est quelque chose que beaucoup de monde se sont demandé à la suite de son passage. C'est-tu parce que ça a été public qu'il y a une réaction?
Bien, il y a eu une réaction parce que ça a été public, c'est clair, parce qu'on apprend la chose. Il y a des choses qu'on ne sait pas tout le temps. Là. Mm. On est en étroite collaboration avec les sociétés de développement commercial. Des fois, eux autres même ne le savent pas. Il y en a beaucoup de commerçants. Fait qu'on essaie d'améliorer les choses. Continuons de le faire. Mais non, ce n'est pas nécessaire d'aller public pour être entendu.
Jusqu'à 3 autobus sur 10 du réseau de transport de la capitale n'arrivent pas à l'heure. Ils arrivent en avance ou ils arrivent en retard. Que c'est ça?
Bien, alors, ce que dit le vérificateur, c'est que, parce que ça fait partie du rapport du vérificateur, oui. C'est que le RTC ne s'est pas donné de cible.
Mm-hmm.
Et il doit s'en donner. Il doit se donner. Alors, c'est normal.
Ben moi, j'ai un exemple niaiseux, monsieur le maire. Là. Je veux dire, un autobus arrive à l'avance. Moi, dans ma tête, il attend l'heure. Il se met ses quatre flasheurs et il attend. Là,
mais
non?
Ça dépend où. Si on dit à tous les autobus de faire ça, les gens vont se plaindre qu'il y a des voies qui sont bloquées, parce que les autobus ne sont pas juste sur des voies réservées, et les gens sont plus qu'à l'avancée. Tu ne peux pas arrêter ton autobus indéfiniment, mettons, parce qu'il te manque 5 minutes.
Non, j'ai entendu des gens dire que les gens ont juste arrivé avec un peu d'avance. Je pense même que vous l'avez dit aussi. Là.
Non.
Non, c'est au RTC qu'on a mentionné.
C'est au RTC qu'on a dit ça?
Non, moi, j'ai pas dit ça.
Non?
Non, moi, on a un système qui permet de savoir quand est-ce que ça passe. C'est un bon système qui est efficace.
Mm-hmm.
Il faut que l'autobus passe évidemment, le plus possible à l'heure.
Parce que là, souvent, ce qu'on nous a dit, en fait, dans les chiffres du vérificateur, le pourcentage, c'est souvent les autobus de fin de soirée. On ne se dira pas qu'un autobus de fin de soirée va bloquer des voies pour beaucoup de monde. Fait que pour quelqu'un qui attend le dernier autobus, que par son travail, il n'a pas le choix d'arriver à cette heure-là, puis qui apprend ensuite de ça que l'autobus est passé 2 minutes en avance.
C'est franchement désagréable.
Fait que c'est pour ça que quand du côté du RTC, on a donné comme justification, ben les gens ont juste arrivé plus de bonne heure, alors qu'on nous vend le RTC comme étant la solution, exactement, ouais. À cause de la fiabilité du service.
Non, puis c'est pour ça qu'on communique l'heure de passage. C'est pour que les gens sachent puis qu'il y ait de la prévisibilité. Alors, c'est à nous de dire, ben on vise une cible de 90 %. Il y aura toujours des contextes qui vont faire en sorte que certains vont passer en retard parce que l'autobus est bloqué, parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a une urgence, parce que on comprend ça. C'est quoi la cible? Comment on fait pour s'y rendre?
Toujours à l'heure, toujours là. Mais il faudrait qu'il arrive à l'heure, puis il faudrait que le RTC soit considéré comme un service essentiel. C'est encore des choses à faire, ça, à Québec?
Ben,
dans le possible?
C'est pas nous, les services essentiels, c'est le ministre du Travail.
C'est pas un combat intéressant, ça, à mener?
On l'a mené. On l'a mené, puis il y a une nouvelle loi qui est rentrée après le conflit l'année passée au Festival d'été, pendant le Festival d'été, pardon, du RTC.
Moi, j'en reviens pas, là.
Mais présentement, on aurait le même problème.
Comment on fait pour changer ça?
Bien, il faut que ce soit un service essentiel. Nous, nos conventions sont réglées, là. Pour l'instant, il n'y a pas d'avis de grève. Là. Fait que c'est tant mieux, mais oui, c'est un service essentiel.
Hausse fulgurante de 88 % de décès sur la route dans la région de Québec pour 2025 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Puis effectivement, sur 18 décès, il y en a 10 qui sont des personnes âgées. Vous expliquez ça comment? C'est-tu plus dur de chauffer à Québec?
Non. Il y a des cas particuliers. Ça n'empêche pas de dire on vise zéro. Fait que c'est pour ça qu'on doit travailler notamment les zones aînées qu'on a mis en place.
Ouais. Ça, c'est quoi, là? C'est des lumières qui sont arrêtées deux minutes? C'est tout ça?
Non, c'est des passages pour piétons qui sont sécurisés.
Mm-hmm.
C'est des passages marqués. C'est de la signalisation particulière. Fait que le but, c'est de faire en sorte que... Ou des fois, c'est des infrastructures.
Ça, on en a mis en haut, dans le coin de Sainte-Foy, entre autres,
je pense. On va avoir 43 zones aînées qu'on développe.
OK.
Le but, c'est que les aînés qui sont présentement vulnérables, on le voit dans les décès, on les protège mieux quand ils se déplacent à pied ou autrement.
Ça fait le tour?
Le fait que s'approche, est-ce que la ville est prête?
La ville est prête. La ville est prête. Je pense que ce qu'on a mis comme innovation depuis deux ans, mais particulièrement l'année passée, parce que c'est vrai qu'il y a encore des entraves, les entraves ne sont pas enlevées, il y en a moins.
C'est sur le bord d'être une attraction touristique à Québec comme le château.
Oui, c'est ça. J'espère que non. Mais les déplacements, vous savez, on a fait une sortie la semaine passée, corrige-moi Cédric, parce que j'étais en mission, mais on expliquait que le FEC, là, on est super bon pour évacuer le FEC. Quand c'est le temps de sortir à la fin du show, là, il y a un nombre phénoménal de gens qui veulent se parquer dans le secteur. Trop grand, ce qui fait que les gens doivent se parquer souvent loin lorsqu'on on l'a déjà fait. Tous ceux qui le peuvent, c'est pas mal cool de se parquer un peu plus loin puis de faire le reste avec un vélo. Là. Ça va bien en maudit, là. Il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ne veulent pas, mais l'année passée, il y a beaucoup de gens qui ont pris cette stratégie-là. Ça rentrait fluide sur les plaines. Il y a un stationnement à vélo qui est beaucoup plus facilitant. Alors, il y a plein de moyens pour se rendre la vie intéressante. À Québec, on est choyé. On peut encore y aller à pied et en auto et en vélo. Mais je pense que plus on est capable de choisir des moyens alternatifs, plus on aide tout le monde.
Monsieur Marchand, on a le droit d'être chauvin. On annonce finalement les sommes du fédéral pour le tramway à Montréal. C'est pas à Québec qu'on devrait faire ces annonces-là, genre tout le temps?
Oui, mais là, OK, mais c'était pas...
Je comprends que vous avez des bonnes raisons de vouloir aller à Montréal. Je comprends.
Ça n'a aucun rapport.
Un petit détour, un petit quickie, on revient à Québec. Je comprends tout ça, mais tabarnouche.
Ça n'a aucun rapport. C'est à Longueuil, l'annonce.
Régis Labeaume n'aurait jamais accepté qu'on annonce l'argent du tramway ailleurs qu'à Québec.
Parce que toi, tu penses que c'était seulement l'annonce qui était faite.
Ben non, je sais qu'il y en avait d'autres.
C'était une annonce sur les infrastructures, les maisons.
La capitale nationale, c'est nous autres.
Ben oui, mais tu
c'est une annonce avec la première ministre.
OK, mais toutes les annonces, donc, devraient être faites à Québec.
Au moins la moitié. Êtes-vous d'accord avec M. Duhem qu'au moins la moitié des débats, ça devrait se faire à Québec?
Bien sûr, je suis d'accord. Cette annonce-là, c'est une annonce pour le Québec. À un moment donné.
Mais la capitale, ça reste Québec.
Ben oui, mais
ils
en font des annonces ici aussi. Là.
Ah, ça vous a pas froissé?
Ben
hey, moi, je boucanais.
Ben non, t'exagères.
Puis je suis pas pro ou anti-tramway, je suis juste en joie le vert parce que Mark Carney est encore à Montréal.
Mais non, mais je me bats de. Il était à Longueuil. Pas pareil.
Ah, ben là!
Je me bats de...
C'est une ligne de métro.
Je me bats de. Tu demanderas au maire de Saint-Augustin s'il a l'impression d'être à Québec.
Il était.
Il va te dire Saint-Augustin. Mais donc, c'est un investissement pour le Québec. On peut pas s'attendre. Toutes les rencontres officielles, puis je me bats depuis 4 ans pour ça, devraient être à Québec. Ouais. Ce type d'annonce-là, qui est en face à Rimouski, qui est en face à Gaspé, ça fait partie de la game. Là.
Merci, M. Marchand.
Merci. Bon été.
Il est 16h34, puis on se reparle au retour des vacances.
On se reparle au retour des vacances, ben je serai là.
En passant, c'est pas le maire qui part en vacances, c'est moi.
Ouais. Non, moi, il m'en reste 3 semaines.
Ah oui?
Oui.
De la pêche, puis tout?
Non, là, je travaille pendant 3 semaines.
OK. Puis après ça, c'est ciao
après
bye?
Ben après ça, oui.
Ciao bella à Montréal?
Non, j'aimerais ça qu'il y ait de la pêche. J'aimerais ça prendre ma pêche.
C'est bon. Salut. Il est 16h34. On s'arrête, on revient. Gravel dans le retour. Gravel. Prenez de la...